Mes frères et sœurs, ma femme et moi sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager depuis tant de temps la parole de Dieu et communier ensemble. Il n'y a rien de plus précieux que la communion fraternelle. C'est vrai, il y a le téléphone, il y a les emails, il y a Internet. Mais être ensemble, dans un même lieu, c'est là que Dieu envoie ça. Eh bien, je voudrais vous proposer, frères et sœurs, une petite lecture dans le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la première épître aux Thessaloniciens. Nous allons lire l'une des phrases, n'ayez pas peur, les plus longues du Nouveau Testament. Et là, je ne sais pas à combien de virgules, mais elle est très longue. Et pourtant, elle est très courte. Et pourtant, elle est très riche. Et pourtant, elle va étoffer notre résistance à tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, maintenant que nous avons le chapitre 5, remarquez l'importance, c'est le verset 27, l'avant-dernier verset de l'épître. Je commence la lecture, si vous le voulez bien, hein. 1 Thessaloniciens 5, 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. L'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, il donne une pensée. Il dit, je vous en conjure, il faut que tous les chrétiens la lisent. Avons-nous déjà lu toute la première épître aux Thessaloniciens? Plus ou moins, c'est très, très court. Mais je me dis, si l'apôtre, inspiré par l'Esprit, dit « il faut que tous les chrétiens lisent », c'est qu'il a quelque chose de très particulier. Et entre autres, maintenant, lisons cette longue phrase qui est pleine de richesses, et qui est d'une importance capitale, et je pense que c'est l'une des phrases aussi que Paul voulait que tout le monde connaisse. Toujours 1 Thessaloniciens, toujours le chapitre 5, mais au lieu du verset 27, nous lirons le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera et nous pouvons dire, amen. Notez bien mes frères et sœurs, ces deux petits mots. Premièrement, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc Dieu va faire quelque chose de particulier, il n'y a que lui qui peut le faire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et nous savons que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et l'apôtre dira, recherchez la sanctification. Et là, il nous est dit que nous avons une aide formidable, le Seigneur lui-même, Dieu le Père, le Dieu de paix s'engage à nous sanctifier lui-même, sa personne. Notez bien, lui-même, ça va? Maintenant, un tout petit peu plus loin, à la fin de cette grande phrase, au verset 24, « Car celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui le fera. Cinq mots. Et je prie le Seigneur, parce qu'il me l'a accordé ce matin très tôt, que quand nous allons nous séparer tout à l'heure, chacun reparte chez lui avec cette pensée, c'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui le fera. Un souci, une difficulté, c'est Dieu qui le fera. Comment faire pour sortir de cette difficulté? C'est Dieu qui le fera. Vous le répétez avec moi? C'est Dieu qui le fera. Le croyez-vous? Alors, il y a dans la Bible près de 8000 promesses que Dieu fait à ses enfants. Très exactement, je crois, 7487. Enfin, Discutons pas sur l'hébreu et le grec. Disons 8000 promesses que Dieu fait. Cela veut dire que un verset sur quatre nous montre les promesses de Dieu pour son peuple. Et l'apôtre Pierre dira, nous avons les meilleures et les plus grandes promesses afin que nous devenions participants de sa nature divine. Promesses qui appellent notre confiance. Car il est un fait, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on perd confiance dans la parole des hommes. Aujourd'hui, on vous dit ça, quelques semaines après, on vous dit le contraire. C'est vrai. On est touché aussi par les médias qui nous informent ceci et quelques jours après nous démentent en disant « c'est pas juste ». On est aussi des fois un peu ballotté par les scientifiques qui font ce qu'ils peuvent mais qui sont des fois dépassés par les épreuves. Alors la seule promesse sur laquelle vous et moi nous pouvons nous appuyer, c'est la promesse que Dieu a faite. Et il nous en fait 7487, le croyez-vous ? Bien, retenons donc cette promesse. Dieu lui-même vous sanctifie, et celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Apprêtons-nous un instant sur cette expression, Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, je voudrais rapidement vous citer 3-4 versets sur ce que Dieu s'engage à faire lui-même, tout seul. Et ici, il nous est dit, par exemple, dans Hébreux 13, 5, vous connaissez ce beau chapitre des Hébreux, il est écrit ceci, « Dieu lui-même dit ». C'est écrit comme ça. « Dieu lui-même dit ». Quoi ?« Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme ?» Dieu lui-même dit. Et qu'est-ce qu'il dit lui-même, Dieu ? Eh bien, il dit deux choses. Mon fils, ma fille, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont déjà connu la solitude ? L'isolement. Et là, on vient de vivre quelque peu. Et votre présence ici, c'est la preuve que Dieu ne vous a pas abandonné, ne vous a pas délaissé. Vous êtes venu avec moi, avec nous, le célébrer. C'est vrai ou pas ? Dieu lui-même l'a dit. Je ne t'abandonnerai pas, je ne vais pas te délaisser, et s'il l'a dit, il le fera. C'est une promesse dans laquelle vous et moi nous avons pleinement confiance. Et je voudrais donner un exemple. Une nuit, Actes chapitre 27, verset 25, une nuit, sur la Méditerranée, l'apôtre Paul est dans un bateau comme prisonnier. Son avenir, humainement parlant, n'est pas très brillant. Il est appelé à comparaître devant César Néron. César Néron qui est un sanguinaire, un criminel, un névrosé et un faux. Et il sait, l'apôtre Paul, ce qu'il attend. Ça fait des jours et des jours qu'ils sont ballottés, secoués, qu'ils ne voient ni le jour, ni les astres la nuit. Et il nous est dit que c'était tellement grave qu'ils ont été obligés de jeter tout ce qu'ils avaient dans le bateau et ils ont tous désespéré repartir vivants. Or, dans la nuit, Dieu a parlé à son serviteur Paul. Et voici ce que Dieu va lui dire. Prends courage, Paul. Il n'arrivera rien de fâcheux à chacune de vos vies, seulement le bateau. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Dès le lendemain, l'apôtre Paul se réveille et dit à toute cette bande de gens, ces 277, je crois, personnes qui sont là, il leur dit, j'ai confiance en Dieu, il va nous arriver que ce que Dieu a dit qui allait nous arriver. Et je crois que ça, c'est quelque chose de capital. Affirmer, mes frères et sœurs, que ce que Dieu a dit nous arrivera. Et comme le Seigneur nous a dit qu'il est le Dieu de délivrance, que c'est le Dieu qui nous accompagne, que c'est le Dieu qui nous encourage, nous ne devons pas baisser les bras, puisque Dieu l'a dit, Paul dit, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que Dieu fera ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai pour nous ? Vraiment vrai ? Vous ne perdrez pas un cheveu. Ça n'a rien à voir avec les miens. Hein. Vous ne perdrez pas un cheveu de votre tête. Quelle image. Mais oui, il nous est dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, de ne pas paniquer, car Dieu lui-même, encore la même expression, Dieu lui-même, non seulement nous dit, je ne vais pas te laisser tomber, mais Dieu lui-même dira à Pierre, prends soin de vous. Ce n'est pas un ange qui prend soin de nous. Ce n'est pas la Vierge Marie qui prend soin de nous. Ce n'est pas les saints du paradis qui prennent soin de nous. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Mon Dieu, cet après-midi, je suis venu t'adorer parce que non seulement ce que tu dis, ça m'arrive, mais par ta grâce, tu pourvois à tous mes besoins, que ton nom soit béni. La troisième chose que Dieu s'engage à faire lui-même, vous la trouverez dans 2 Thessaloniciens 2,16. Il est écrit, « Lui-même, Dieu, vous donne la grâce et une consolation éternelle et une bonne espérance qui consolera vos cœurs. » Dieu lui-même console. Avons-nous besoin de consolation? Qui va nous consoler? TF1? Antenne 2? Dieu lui-même. Dieu s'engage en tant que personne à venir, non seulement ne jamais nous laisser tomber, non seulement accomplir ce qu'il a dit, non seulement prendre soin de nous, mais nous apporter une consolation éternelle. Voilà une autre chose, quatrième chose que Dieu s'engage à faire. Et dans 2 Thessaloniciens, cette fois-ci 3,16, il écrit « Dieu lui-même vous donnera la paix en tout temps et de toute manière. » Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, c'est un besoin énorme que nous avons les uns les autres d'avoir la paix. Moi, j'entends souvent les gens dire, vous savez, je ne demande pas grand-chose, qu'on me fiche la paix. Eh bien, Dieu lui s'engage. Il dit, moi, je m'engage moi-même à te accorder la paix en tout temps, virus ou pas virus, et de toute manière. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien, c'est pour cela que je suis venu avec vous l'adorer. Il est digne d'être adoré. Il dit ce qu'il dit, il le fait. Non seulement il prend soin de nous, non seulement il nous console, mais il nous donne la paix. Mais attendez, la cerise sur le gâteau, c'est l'apôtre Paul qui écrira dans les Thessaloniciens, j'aime beaucoup ça, il dira au chapitre 3, premier épître, chapitre 3, verset 11, il dira à ses frères de Thessalonique, « Mes frères, Dieu lui-même, tiens, aplanira mon sentier pour que nous puissions nous rencontrer. » Vous ne trouvez pas ça, c'est beau? Dieu lui-même aplanira les difficultés du masque. C'est vrai, le Seigneur nous a dit, chantez de tout votre cœur et on voudrait tellement faire tomber les masques. Hein. Et puis, le Seigneur nous a dit, aime ton prochain. Et maintenant, c'est plus notre prochain, c'est notre lointain. D'un mètre. Mais Dieu dit, lui-même, je vais aplanir ton chemin. Et si vous êtes là cet après-midi, frères et sœurs, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a permis de le faire. Il a aplani nos difficultés. Ça, c'est vrai aussi pour demain. Voyez-vous? Donc, Dieu lui-même s'est engagé à ces choses. Et c'est la raison pour laquelle je l'adore. Donc, celui qui fait la promesse, c'est Dieu. Très bien. Maintenant, il promet quoi? Après toutes ces bénédictions que nous avons données, je relis au verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Frères et sœurs, voilà l'ambition de Dieu pour chacun d'entre nous. Voilà l'œuvre de Dieu. Il va nous sanctifier lui-même. Avez-vous, répondez pas, gardez ça dans votre cœur. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la sanctification? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir, dimanche avant de venir au culte, puis, oh, quand même, j'ai besoin de faire des progrès. Et c'est vrai que quand on cherche la sanctification, quand tout va bien, ça va. Mais des fois, il y a des circonstances où on a le sang chaud et par exemple, quelqu'un qui n'en finit pas de démarrer devant vous au feu vert. Ou quelqu'un qui n'en finit pas de passer à la caisse de supermarché. L'Écriture nous dit, ici, que Dieu, dans sa grâce, nous a créés. Car nous sommes son ouvrage. Mes sœurs, mes frères, vous et moi, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Est-ce que vous le croyez ? Et l'Écriture nous dira dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a créés pour faire des bonnes œuvres. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Et il nous est dit dans Philippiens 2:13 que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si bien que si je veux faire sa volonté, j'ai pas à me tomber dans l'orgueil en disant, regardez, je fais sa volonté. Si je fais sa volonté, c'est grâce à lui qui me secourt et qui m'aide. Et cela, frères et sœurs, nous délivre d'un esprit qui, oui, supérieur, comme le dit Pasteur Gentil, qui a malheureusement tourné la tête aux pharisiens, qui à la base étaient des gens intègres. Mais ils ont fait de leur intégrité une telle hypocrisie que Jésus leur a consacré un chapitre tout entier de l'Évangile en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Oui, frères et sœurs, ils se vantent. Mais dans le fond, si nous sommes fidèles, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. Nous l'avons lu tout à l'heure, « Celui qui vous a appelé est... » Et si je suis fidèle, c'est parce que dans sa grâce infinie, il me garde fidèle. Sinon, comme les autres, moi aussi, je pourrais glisser. Cela m'amène à vous proposer quelque chose. Auriez-vous désiré acheter une petite propriété? Pourquoi pas? Bon, ne levez pas la main parce que ça ne me regarde pas. Avez-vous acheté une petite propriété? Oui, le pasteur, il prend le risque. Et alors, quand on achète une petite propriété, on la visite, hein? Et puis, on se dit, l'homme parle à sa femme, ses enfants, on se dit, oh, disons, ça, c'est pas mal, mais toi, là, moi, je vois ça comme ça. Cette fenêtre, je la vois comme ça. La salle d'eau, je la vois, vous comprenez, hein, la cuisine. Bon. Alors, on va faire du changement. On va acheter une propriété et on va la rénover. Or, mes frères et sœurs, quand on achète un petit bout de maison ou d'appartement à rénover, on a des fois des surprises à vous renverser. On n'avait pas prévu ça. Dis donc, une fois que vous avez acheté, t'as pas vu, là-haut, les tuiles sont cassées. Ah. Dis, t'as pas vu, dans la salle d'eau, il y a de la moisissure. Ah. Et si bien que réparation plus réparation engage encore de la des préparations, de la consommation et de l'argent, malheureusement. La rénovation se termine en catastrophe et le plus souvent, des fois, ça coûte plus cher à réparer, oui, parce qu'il y a des vis qui sont dissimulées et dans lesquelles on n'a rien vu. Vous comprenez? Ça, c'est notre propriété. C'est tellement difficile de réparer ce qui est ancien. Et je me dis, moi-même qui vous parle, ma vie, j'ai une ancienne vie, j'ai une vie de pécheur, de chair et de sang. Eh bien, le Seigneur ne m'a pas appelé à me rénover, parce qu'il sait que me rénover, ça n'existera pas. Regardez, vous avez un désir disant, « Ah, Seigneur, je ne me mettrai plus en colère. Seigneur, je ne mangerai plus autant de chocolat. » Et moi, personnellement, « Seigneur, je ne mangerai pas autant de crème chantilly. » C'est une décision. C'est une décision. Je l'ai décidé. Mais un jour, vient, on replonge. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Donc, voyez-vous, on n'arrive pas à se réformer nous-mêmes. C'est pas possible. Et des fois, bon, c'est dans la vie comme ça, mais des fois, on voudrait changer notre extérieur. Ah, si j'étais plus grand. Et mesdames, nous, on peut pas le faire, mais et si j'étais plus grande? Et si j'avais des yeux bleus, azur? Et si j'avais des yeux noirs, comme en Espagne? Olé! Oh, si j'avais des cheveux blonds?
Ah, si j'avais. Et pourtant.
On est ce qu'on est. Et vous avez remarqué, mes frères et sœurs, qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à se changer. Et je ne vais pas vous décourager, mais plus on vieillit, je continue. Plus on vieillit, plus, écoutez-moi mes sœurs, plus on a toujours quelque chose à corriger. Une ride? Non. Petite chose qui est ici et là, mais plus on vieillit, mes frères et sœurs, plus on a besoin d'un plan, plus on a besoin de lunettes, et même des lunettes à double foyer, plus, que dirais-je encore, plus on a besoin d'une aide auditive, plus on a besoin d'une aide pour mastiquer, plus on a besoin de cela, et puis si vous ne me croyez pas, mettez votre corps sur une radio, et vous verrez le chirurgien dire, tiens, vous avez une prothèse là, tiens, vous avez une grosse vis là, c'est-à-dire que notre corps se détériore. Mais il est écrit dans le texte que j'ai lu avec vous, que notre esprit, notre âme et notre corps, par la grâce de Dieu, seront conservés, par la grâce de Dieu, irréprochables. Ne trouvez-vous pas que cela, c'est bien le travail de Dieu? Vous savez, la vie nous dégrade, la vie nous use, on est moins souple qu'avant, et pourtant le Seigneur nous dit, moi, je m'occupe de ton corps. Je m'occupe de ton âme, je m'occupe de ton esprit. Et encore, si nous sommes là cet après-midi, corps, âme et esprit, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, par Jésus-Christ, nous a guéris, délivrés, pardonnés, transformés, et nous fait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus ma vieille nature, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et c'est ce qui est formidable. Et voulez-vous regarder, pour terminer, dans l'Épître aux Romains, un passage très très connu, au chapitre 8 et au verset 29. Je vais me servir de conclusion. Je lis. Alors, notez bien, Dieu lui-même, c'est lui qui le fera, ces deux phrases. Je lis. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui c'est qu'il a connu d'avance? C'est nous. Et qui c'est qui connaît? C'est lui, d'accord. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Bien. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Il les a. Vous avez vu, c'est écrit. Il les a. Et qui c'est qui a fait il les a dans nos vies? C'est le Seigneur Jésus. Il les a. Dieu s'engage lui-même à faire ces choses en nous et à nous perfectionner. Regardez bien. Nous perfectionner et nous rendre irréprochables. Satan est un accusateur. Dans l'Ancien Testament, il accuse un serviteur de Dieu, sacrificateur. Il l'accuse et des taches viennent sur sa robe. Et la grâce de Dieu agit en disant, ôtez cette robe et remettez-en une bonne nouvelle, propre. Frères et sœurs, Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu. Et il nous accuse de quoi? Ça vous est arrivé d'être accusé par le diable? Qu'est-ce qu'il vous... Il vous accuse de quoi? Il vous rappelle quoi? Vous allez... Oui, bien. Oh, c'est vrai? Est-ce qu'il nous parle de notre avenir? Non. Est-ce qu'il nous parle de notre passé?
Oui.
Oui! Et il ne parle de notre passé. Et mes frères et sœurs, si vous l'écoutez, vous lui direz, écoute Satan, si tu me parles de mon passé, c'est la preuve que dans mon présent, tu n'as plus rien à dire. Je répète. Dites à Satan, si tu me parles avec mon passé, c'est la preuve qu'aujourd'hui, tu n'as rien à dire sur moi. Parce que aujourd'hui, Dieu est avec moi. Et à ce moment-là, vous êtes plus que vainqueurs. Et l'Écriture nous dit, il est tombé, l'accusateur des frères qui les accusaient jour et nuit. Il est tombé, il est vaincu, il est anéanti. Et s'il est tombé, s'il est vaincu, s'il est anéanti, vous et moi, nous ensemble, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donné cette grâce et cette force. Il nous garde irréprochables. Alors, Dieu fait des promesses lui-même. D'accord ? Et cette promesse, ce n'est pas de nous rénover comme on rénove une vieille voiture ou une vieille baraque, c'est de nous créer en nous une vie nouvelle. Et quel est son objectif? On l'a lu dans Romains, être semblable à l'image de son Fils. Ma sœur, mon frère, que Satan défigure en te disant que tu es un minable, pauvre type, tu n'auras même pas élevé ta voix. Dieu veut que tu ressembles à son Fils, Jésus-Christ. Et ça, c'est son travail. Et c'est lui qui le fera. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu peux le désirer. Mais si tu le désires, Dieu va l'accomplir lui-même et te glorifier. Car, il est écrit, nous sommes maintenant, mes frères et sœurs, 1 Jean chapitre 3, nous sommes maintenant des... Dites-le. Nous sommes maintenant des... Dites-le. Bravo. Et l'apôtre dit, mais ce que nous saurons. Donc cet après-midi à Paris, nous sommes des... Mais quand nous le verrons tel qu'il est, tel aussi nous serons. Non pas parce que vous avez fait l'effort, mais Dieu lui-même fera ce miracle, que son Saint-Nom soit béni. C'est lui, mes frères et sœurs, qui le fera. Et on sera semblable à lui, pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Terminons par cette phrase. Il peut le faire. Dieu est fidèle, il peut le faire. Est-ce qu'il dit, je pourrais le faire? Est-ce qu'il est écrit, Dieu est fidèle, il pourra le faire? Non. Ah bon? Il dit pas, par exemple, Dieu est fidèle, il pourra le faire s'il veut. Il le fera! Et nous pouvons dire aujourd'hui, il l'a fait! Et il le fera! Frères et sœurs, c'est ce que nous dit la Bible quand Salomon dira, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, je crois, il dira, quand Dieu fait un travail, c'est un travail qui ne s'arrête jamais et qui dure toujours, que son Saint-Nom soit béni. C'est lui qui le fera. Seigneur, disaient ces pauvres femmes, qui nous roulera la pierre au tombeau? Et quand elles sont arrivées, la pierre était? Qui l'avait fait? Qui le fera? Seigneur, qui va m'aider devant toutes ces factures, cette souffrance qui est là, devant lequel je suis impuissant? Qui va me conseiller? Dieu le fera. Seigneur, je souffre dans mon corps. Je suis toujours à la recherche sur Internet de trouver le meilleur médecin. Mais lui, il le fera, car je suis l'Éternel qui te guérit, que son Saint-Nom soit béni. Te ressembler. Qu'est-ce que c'est? Comment? Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, quand vous vous assemblez, faites ceci en mémoire de moi. Tu as pris du pain et tu as pris du vin et tu as dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et cet après-midi, tu nous invites à communier au corps de Jésus, le corps meurtri qui apporte la guérison des malades. Tu nous invites, Seigneur, à nous abreuver du sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Et cet après-midi, mes sœurs et moi-même, nous voulons dire, Seigneur, merci pour cette coupe de bénédiction que nous bénissons et qui nous fait chanter, Seigneur, comme le roi David, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.